journal vous est présenté par Clarence Rodriguez.
Bonsoir. Trois jours après l'incendie de Lubrizol, Pierre-Henri Durand, préfet de Normandie, a présenté tout à l'heure à la presse les derniers prélèvements d'analyse qui révèlent un état habituel de la qualité de l'air à Rouen, excepté sur le site où nous l'entendrons dans quelques minutes. C'est la journée mondiale de l'avortement, un droit en France depuis 1975 et pourtant plus de 40 ans après sa légalisation, l'interruption volontaire de grossesse reste parfois difficile d'accès. Une enquête des agences régionales de santé publiée révèle que le nombre de centres pratiquant l'IVG est en baisse. Nous en parlerons dans quelques instants avec Diane Berger. Turquie, Erdogan sous pression pour renouer avec le voisin syrien. Le principal parti d'opposition, le CHP, organisait aujourd'hui une grande conférence consacrée à l'avenir de la Syrie, souhaitant inviter des représentants du régime de Bachar el-Assad avec lequel Ankara a coupé les ponts dès 2011. Les autorités s'y sont opposées. Nous irons à Istanbul dans ce journal. Trois jours après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, les autorités et élus tentent de rassurer la population inquiète lors d'une conférence de presse en fin de journée. Pierre-Henri Durand, préfet de Normandie, a révélé les derniers prélèvements d'analyse tant attendus. On l'écoute.
Ces résultats, donc, sur les composés organiques volatiles sont tous inférieurs au seuil de quantification, c'est-à-dire une quantité trop faible pour être mesurée, ce qui permet de conclure que nous sommes à un état habituel de la qualité de l'air à Rouen. Donc nous avons une situation normale, une situation habituelle telle qu'elle se présente en milieu urbain ici à Rouen. À une exception qui est le site lui-même, sur lequel on note une présence de benzène. Donc sur le site lui-même, il y a effectivement une pollution plus concentrée qui se comprend très bien, compte tenu, je dirais, de l'activité et des manipulations diverses sur le site.
Alors reste à savoir si les déclarations du préfet vont rassurer la population inquiète. Aujourd'hui, au moins trois personnes ont décidé de porter plainte contre X en attendant que l'enquête lancée par le procureur indique des responsabilités. Ces plaintes sont la conséquence de vomissements et de malaise. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers, dont Vladimir Poutine, ont déjà annoncé leur venue lundi aux obsèques de Jacques Chirac. Outre le président russe, qui avait été décoré en 2006 des insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur par l'ancien président de la République, sont notamment attendus les présidents italiens Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, les premiers ministres libanais Saad Hariri, hongrois Viktor Orban. Tous participeront au service solennel prévu lundi à midi en l'église Saint-Sulpice pour l'ancien chef de l'État. Et les anciens présidents français François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing participeront également au service solennel présidé par Emmanuel Macron en présence de la famille Chirac. Lundi, rappelons-le, sera une journée de deuil national et une minute de silence sera observée à 15h dans les administrations et les écoles. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'avortement, un droit en France depuis 1975 et pourtant plus de 40 ans après sa légalisation, l'interruption volontaire de grossesse reste parfois difficile d'accès. Diane Berger, bonsoir. Bonsoir. Alors, sait-on pourquoi le nombre de centres pratiquant l'IVG en France est en baisse?
Alors, 27 centres ont ouvert en 10 ans, quand 70 autres ont fermé. Au total, sur l'ensemble du pays, c'est pratiquement 8% des établissements en moins. Et ce n'est pas sans conséquence pour les femmes qui choisissent d'avorter. Alors, le ministère de la Santé veut rassurer. Il n'y a pas de zone blanche où l'IVG est inaccessible, mais il y a des territoires en tension. Il faut 3 jours dans certaines régions, entre le premier rendez-vous et la réalisation de l'acte. Dans d'autres, il en faut 11, quand les femmes ne vont pas tout simplement avorter ailleurs. C'est le cas de 2 sur 5 d'entre elles en Haute-Loire, en Ardèche et dans l'Ain, par exemple, où elles vont dans un autre département. La situation est bien connue du planning familial. Certaines femmes viennent d'autres départements jusqu'à Paris, par exemple, car on leur annonce parfois plusieurs semaines d'attente, parfois 3, parfois 5, pour obtenir un premier rendez-vous. Et en cause, justement, ce sont les restructurations hospitalières des dernières années. Les centres proposant l'IVG ont été regroupés en grands pôles de santé. Ceux de proximité ont donc disparu. Et mais les autorités régionales de santé, comme le planning familial, notent que ce n'est pas la seule entrave. Certains établissements refusent de prendre en charge les IVG dites tardives, c'est-à-dire celles qui ont lieu après la dixième semaine de grossesse.
Merci Diane. Alors précisons que des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France aujourd'hui, mais aussi en Allemagne. Les militants réclament l'abolition de la législation actuelle jugée trop restrictive. L'avortement n'y est pas autorisé, mais seulement dépénalisé dans un certain nombre de cas bien définis. À Hong Kong, il y a 5 ans, le 28 septembre marquait le début du mouvement des parapluies, un mouvement de révolte pacifique sans précédent dans l'ancienne colonie britannique. Pendant 79 jours, des dizaines de milliers d'étudiants ont bloqué plusieurs artères de la ville dans 3 quartiers distincts. Il s'agissait pour ces manifestants de s'opposer à une proposition de réforme politique par Pékin, réforme que les Hongkongais ont rejetée en les jugeant inacceptables car pas vraiment démocratiques. La mobilisation qui a vu le jour il y a 3 mois est généralement perçue comme l'acte 2 du même mouvement. Sur place, notre correspondante Florence de Changy.
« 5 ans après le coup d'envoi du mouvement des parapluies, les slogans ont à peine changé. Pour notre maison, pour notre patrie et démocratie maintenant, Hong Kong est à nouveau en pleine révolte politique. Le projet de loi d'extradition qui a mis le feu aux poudres au mois de juin va officiellement être abandonné, mais les manifestants ont ressorti la principale revendication du mouvement des parapluies, une vraie démocratie. Le jeune leader Joshua Wong, l'une des figures les plus reconnues du mouvement étudiant de 2014, a choisi le 5e anniversaire du mouvement pour annoncer sa candidature aux élections de district de novembre et il est plus déterminé que jamais.
Il y a 5 ans, nous avions dit que nous serions de retour et nous sommes à présent de retour avec une détermination encore plus forte et avec maintenant le soutien de plusieurs millions de Hongkongais. Tous ensemble, nous sommes solidaires et nous ne faisons qu'un.
Pour le député d'opposition Chuo Dik, le mouvement des parapluies marque le véritable début du combat démocratique, même s'il sait que la route est encore longue pour Hong Kong.
Les Sud-Coréens se sont battus pendant 30 ans pour obtenir la liberté, un combat aussi long pour que Taïwan obtienne la démocratie. On sait que le vrai début du mouvement démocratique de Hong Kong a commencé ici, il y a 5 ans.
La journée de fête nationale chinoise du 1er octobre a déjà été rebaptisée par les Hongkongais « journée de tragédie nationale ».
En Turquie, le principal parti d'opposition, le CHP, organisait aujourd'hui une grande conférence consacrée à l'avenir de la Syrie. Particularité de l'événement, le CHP souhaitait inviter des représentants du régime de Bachar el-Assad avec lequel Ankara a coupé les ponts dès 2011. Les autorités s'y sont opposées alors que la fin du conflit en Syrie se profile. Eh bien, le président turc Erdogan se trouve sous pression pour renouer des liens avec le régime de Damas. À Istanbul, Anna Dler.
Sur la scène interne, le Parti républicain du peuple, ou CHP, est depuis des années l'un des principaux détracteurs de l'engagement de la Turquie dans le conflit syrien. Il dénonce le choix du président Recep Tayyip Erdogan de soutenir, dès 2011, l'opposition armée. Une alchévikeuse, ancienne ambassadeur devenue députée du CHP, estime que son pays doit désormais renouer des liens avec le régime de Bachar el-Assad.
J'entends dire Assad est responsable de tellement de sang versé. Ce n'est pas le propos. La Syrie est le voisin avec lequel la Turquie partage la plus longue frontière commune. Un jour ou l'autre, la stabilité reviendra et les puissances mondiales qui se trouvent en Syrie se retireront. Mais il reste un régime avec lequel, tôt ou tard, la Turquie devra à nouveau parler.
Les principales pressions sur Recep Tayyip Erdogan n'émanent toutefois pas de son opposition, mais de la Russie, l'alliée du régime de Damas. Depuis 2 ans, Ankara et Moscou coopèrent dans le cadre du processus d'Astana, qui vise à trouver au conflit une solution politique. La Russie joue les médiateurs entre les autorités turques et syriennes, diplomatiquement et sur le terrain, dans les zones où des soldats turcs sont présents. Une alchéviqueuse.
La Russie en a assez d'être le médiateur et le messager. Elle y voit aussi, bien sûr, un moyen de légitimer le régime syrien. Mais soyons réalistes, la communauté internationale elle-même a accepté de travailler avec le régime d'Assad, de façon temporaire, au moins jusqu'à la fin du processus de paix de Genève. La Turquie ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité.
À ce jour, Recep Tayyip Erdogan a reconnu des contacts entre les services de renseignement turcs et syriens, mais une réconciliation politique reste pour lui une ligne rouge.
À Istanbul, Anne Andlauer, correspondante de RFI pour France Culture. Enfin, un mot du temps pour demain. Je vous annonce, ça va décoiffer. Alors attention aux grandes marées. Coup de vent attendu dans le nord de la France ce dimanche avec des rafales jusqu'à 80 km/h dans l'intérieur des terres et 90 km/h en bord de Manche. Un front froid va traverser tout le nord de la France. Les pluies seront modérées à fortes avec également des rafales de vent avoisinant les 80 km/h à l'intérieur des terres sur tout le nord-ouest jusqu'en Lorraine et en Alsace avec des rafales à 100 km/h sur le relief vosgien. Le vent soufflera fort, notamment en Bretagne, de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais. Les températures varieront entre 11 à Strasbourg et 18 à Ajaccio. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau.